Le journal de François Comte.
Madame, Monsieur, bonsoir. La fermeture prochaine de BAT à Boncourt n'a pas engendré de vague de chômeurs jusqu'à présent. Seulement 7 personnes se sont inscrites à l'office régional de placement depuis l'annonce de l'entreprise. Les échanges entre le Jura et la Galice au cœur d'une exposition. Le musée jurassien d'art et d'histoire accueille Taxi Compostelle dès samedi à Delémont. L'exposition présente de nombreux témoignages. Il faut accélérer le développement de la 5G en Suisse. Le Conseil national a largement soutenu aujourd'hui une motion du PLR. Le texte réclame un déploiement rapide de la téléphonie mobile de 5e génération. Météo, de fréquentes averses ce soir avec des rafales de vent. Un temps parti ensoleillé nous attend demain. Des conditions changeantes sont prévues samedi, mais elles seront plus ensoleillées dimanche. L'explosion du nombre de chômeurs après les licenciements à BAT n'a pas eu lieu. L'Office régional de placement n'a pas dû ouvrir une cellule spéciale pour aider à retrouver du travail depuis l'annonce de la fermeture du site à la fin de l'année dernière. Jusqu'à présent, environ 80 employés ont quitté British American Tobacco par vagues successives. Parmi ces personnes, des démissions, des départs en pré-retraite des 55 ans et évidemment des licenciements. L'ORP nous a ainsi informé que 7 personnes se sont inscrites pour le moment. Un chiffre qui ne surprend pas le responsable régional du syndicat SINA, Laurent Crevoisier.
Déjà, il faut tenir compte d'une donnée, c'est que chez BAT, il y avait une partie importante de personnel qui était frontalier, donc qui ne bénéficie pas des services de l'ORP. Aussi, dire que le plan social négocié par les syndicats offrait plusieurs possibilités, je pense notamment aux pré-retraites, je pense aussi à des éléments importants comme les mesures d'outplacement qui ont permis à des employés de suivre des cours professionnels avec des personnes qui facilitent la réembauche et puis bien évidemment que la situation sur le marché du travail avec des gens qui étaient très qualifiés a facilité finalement la recherche de nouveaux emplois.
Est-ce qu'on a une idée du nombre de licenciés qui ont retrouvé du travail juste après ?
C'est une donnée que je n'ai pas. Maintenant, je sais que beaucoup d'entreprises de la région ont approché l'entreprise BAT pour transmettre leur recherche d'emploi actuelle. Et puis, ça a permis à un bon nombre d'employés BAT de pouvoir postuler dans des entreprises qui recherchaient de la main-d'œuvre qualifiée. Ça explique certainement le chiffre assez faible d'inscription à l'ORP pour l'instant.
Et Laurent Crevoisier répondait à Nancy Chapuis. Selon les chiffres à disposition du syndicat, environ 150 personnes travaillent encore à BAT. La fin de la production est annoncée pour fin mars. Elisa Soy du Sapin fait partie de la première sélection du prix littéraire Médicis annoncé aujourd'hui. La jurassienne a été retenue pour son 4e roman, Le vieil incendie, paru récemment. 32 livres ont été retenus à ce stade, soit 15 romans écrits en français et 17 livres traduits. Trois autres auteurs suisses, Martina Klavadetcher, Kim de l'Horizon et Peter Stamm, font également partie de la première sélection du prix Médicis. Une exposition pour mettre en lumière les liens entre les Jurassiens et les Galiciens. L'exposition Taxi Compostelle aller-retour entre Galice et Jura se tient dès samedi au musée jurassien d'art et d'histoire à Delémont. Elle se compose des textes d'Antonio Rodriguez, journaliste et auteur d'origine galicienne né à Delémont, de photographies du jurassien Pierre Montavon et de films du documentariste parisien Aubin Hello. Ce sont les témoignages des personnes qui ont immigré dans la région à partir des années 60 pour travailler, qui sont au cœur du projet Antonio Rodriguez.
Ces témoignages, quand on les accumule comme ça, on donne une histoire qui est en fait une épopée collective de Galiciens qui ont découvert la neige, qui ont découvert la montagne, parce qu'ils viennent du bord de la mer, qui viennent de l'océan, et qui ont découvert la fondue, et qui ont ça en eux maintenant. En Galice, on parle du mal de pays, ça s'appelle la morigna, le mot morigna. Et en fait, ici, les Galiciens, ils ont dans leur appartement plein de photos de Galice. Et quand ils rentrent là-bas pour la retraite, ils ont plein de photos de Delémont. C'est la morigna inversée.
Est-ce qu'il y a un témoignage en particulier qui vous vient en tête ?
Je pense qu'un couple de pêcheurs de pousse-pieds, ils risquent leur vie à pêcher ce fruit de mer qui est très dangereux, à aller chercher sur les rochers face à l'océan. Tous deux ont failli mourir emportés par l'océan. Et à un moment donné de leur vie, il y a une dizaine d'années, ils se séparent. Un d'entre eux vient ici à Zwingen travailler pendant quelques années. Et sa femme reste là-bas. Et donc, on a interviewé le pêcheur de pousse-pieds au bord de l'eau douce, des truites, et ça n'inspire pas vraiment. Et sa femme qui est là-bas et qui dit, bon, bah, maintenant, il faut qu'il revienne. Parce que moi, je suis en train de faire tout le boulot toute seule et j'ai besoin de lui.
Des propos recueillis par Émilie Moumentaler. L'exposition Taxi Compostelle, aller-retour entre Galice et Jura est présentée au musée jurassien d'art et d'histoire des samedis jusqu'au 14 avril. Avant-goût en vidéo à découvrir sur notre site rfj.ch. Les partis politiques jurassiens misent aussi sur la jeunesse dans le cadre des élections fédérales du 22 octobre. 10 candidats issus de 5 partis politiques différents, dont l'UDC, se présentent au Conseil national sur des listes jeunes. À 20 ans, Nadine Smos de Montsevelier se lance dans la course sous la bannière du parti agrarien. Face au désintérêt de sa génération pour la politique, elle pense que l'école a un rôle à jouer. Nadine Smos.
C'est important d'en parler à l'école, d'expliquer ce qu'est la gauche, la droite, de parler des thèmes sur lesquels on doit voter. Et si on comprend le fonctionnement de la politique, je pense qu'on est automatiquement assez intéressé.
Deuxième candidat UDC estampillé jeune, Loïc Guerne a 26 ans. L'habitant des Pommerats estime que la famille permet également de contrer l'abstentionnisme chez les plus jeunes. Loïc Guerne.
C'est un peu un mélange savant et un juste équilibre entre la famille et l'école. On doit les informer à l'école de façon objective, mais il faut aussi en parler en famille parce qu'on doit quand même se développer un caractère propre et ses propres idées. Il y avait des super outils à l'époque comme le Parlement des jeunes. Ça, je pense que l'État aurait aussi un rôle à jouer avec ce genre d'institution pour donner la parole aux jeunes dans un cadre un petit peu plus sain et moins stressant que la politique générale.
Et les portraits des jeunes candidats UDC, Nadine Smos et Loïc Guerne, sont à retrouver en vidéo sur notre site rfj.ch, ainsi que l'émission de ce matin lors de laquelle la rédaction a décortiqué le programme du parti avec 3 de ses autres candidats au national, Myriam Moser, Thomas Stettler et Romain Cher. Demain, dans la matinale, nous accueillerons les Verts libéraux dès 7h10. Une recrue de l'armée suisse a perdu la vie hier soir après s'être effondrée lors d'une marche en patrouille dans le canton de Saint-Gall. Le jeune homme a été héliporté à l'hôpital avant d'y décéder. La justice militaire a ouvert une enquête. Le malheureux s'est effondré sur un stand de tir lors d'une marche sportive d'une longueur de 2,5 km en patrouille. L'armée ne donne pas davantage d'informations pour l'instant. Le Parlement fédéral veut développer la 5G. Le Conseil national a largement soutenu aujourd'hui une motion du groupe libéral radical. Le texte réclame un déploiement rapide de la téléphonie mobile de 5e génération. Il demande au Conseil fédéral de créer des conditions générales propices à cette technologie, mais sans modifier les valeurs limites de l'ordonnance sur la protection contre le rayonnement non ionisant. Seule une partie du groupe UDC et les Verts s'y sont opposés. La conseillère nationale écologiste Isabelle Pasquier-Eichenberger.
La grande question, c'est est-ce qu'on a besoin que toutes nos conversations, toutes nos données, elles passent par la 5G? Quand on sait que plus de 3/4 des données qui sont utilisées, elles sont à l'intérieur des bâtiments, eh bien, il faudrait vraiment pouvoir plus utiliser la connexion fixe, notamment quand on regarde un film depuis chez soi. Et on a aussi justement la fibre optique qui est une réalité, avec la volonté de continuer de la développer. Et le fait d'aller vers une direction où on oriente tout sur la 5G, donc tout sur les données mobiles, simplement parce que c'est le moyen le moins cher pour les opérateurs. On vous encourage d'ailleurs aussi à prendre des abonnements avec des données illimitées. Donc on voit vraiment qu'eux, ils ont un intérêt par rapport à ça. Mais ils font complètement fi du principe de précaution et que déjà aujourd'hui, 5 à 10% de la population se dit affectée par l'électrosensibilité. Donc on ne peut pas juste faire comme si ce pourcentage de la population n'existait pas. Il s'agit aussi de les protéger.
Mais la motion a été adoptée par les deux chambres du Parlement. Le Conseil fédéral doit maintenant concrétiser la demande et informer davantage le public sur la technologie 5G. À l'étranger, les premières discussions ont été constructives aujourd'hui entre l'Azerbaïdjan et les séparatistes du Nagorno-Karabakh. C'est ce qu'a estimé Bakou, qui espère récupérer la région sécessionniste en majorité peuplée d'Arméniens. L'armée azerbaïdjanaise vient d'y remporter une victoire éclair qui a mené à un premier sommet de 2 heures. Une nouvelle réunion devrait avoir lieu le plus rapidement possible, a estimé la présidence de l'Azerbaïdjan. De leur côté, les séparatistes arméniens se sont dit prêts à poursuivre les pourparlers de paix.
RFJ, il est 18h10.
Sport. En football, Servette défie Slavia Prague ce soir lors de son premier match en phase de groupe de la Ligue Europa. 2 fois quart de finaliste ces dernières saisons, les vice-champions tchèques partent favoris. Malgré l'absence de grandes vedettes, le Slavia Prague compte toutefois 5 internationaux dans ses rangs. Pour l'entraîneur genevois René Weiler, son équipe doit donc s'attendre à un match compliqué.
J'attends une équipe qui est physiquement très forte, qui a beaucoup de confiance parce qu'ils ont 7 fois gagné et un match nul dans leur championnat qui est à peu près le même niveau que le championnat en Suisse. J'attends presque tout le temps des matchs assez compliqués, mais je vois aussi des possibilités de gagner parce que j'ai vu aussi mon équipe les derniers jours, aussi à Bulle, même si ça a été Bulle, qui a progressé énormément. Et j'espère bien qu'on va montrer ça, que je veux que l'équipe montre.
Et au niveau de l'expérience européenne, les Grenats n'ont vécu que les confrontations face à Genk et aux Glasgow Rangers cet été lors des tours préliminaires de la Ligue des Champions. Une expérience qui peut toutefois s'avérer utile selon René Weiler.
Ça dépend comment nous allons interpréter les positions, les joueurs sur le terrain, comme ils jouent, les positions, comme ils donnent des courses, comme ils jouent des duels. Mais à la fin, j'aimerais bien agir et pas réagir. Ça peut aussi nous beaucoup gêner si on ne joue pas juste les duels, si on n'anticipe pas les dangers qu'on va aussi avoir. Il faut bien commencer, il faut montrer quelque chose au public. C'est d'abord nous de nous confirmer avec un match qui nous plaît. Et tout le reste, je regarde à la fin la place qu'on a et le reste, ça c'est pas mon boulot.
Des propos recueillis par Blaise Bugil de OneFM. La rencontre entre Servette et le Slavia Prague a lieu ce soir à 18h45 au stade de Genève. Plus de 20 000 spectateurs sont attendus. Et en Ligue Conférence, Lugano défie les Norvégiens de Bodø/Glimt ce soir à 21h. Cela fait 50 ans que l'haltérophilie a commencé à se faire une place à Moutier. La société haltérophile prévotoise est née en 1973 et va fêter ce samedi son cinquantenaire. Un tournoi amical avec l'haltéroclub Tramelan et l'haltéroclub La Chaux-de-Fonds est prévu. L'événement va rassembler les 3 plus anciens clubs d'haltérophilie romands encore en activité. Fondé par Yvan Lab, le club prévotois décroché une 50aine de titres en 50 ans. La discipline a aussi évolué, comme l'explique le président de la société haltérophile prévotoise, Cyril Gostelli.
Comme partout, il y a des hauts et des bas. Ils ont commencé, ils étaient une dizaine de membres. Maintenant, on compte plus de 40 membres, dont 10 athlètes encore en activité, et puis des membres soutiens qui nous soutiennent tout au long de l'année.
Est-ce qu'en 50 ans, l'image de l'haltérophilie aussi a changé? Au début, c'était peut-être un peu marginal.
Tout à fait. Alors, il y a 50 ans, l'haltérophilie, c'était un sport que de gros bras et de petites têtes. Maintenant, ça a bien évolué. C'est rentré, c'est un sport olympique hein, quand même, à la base. Ça a quand même bien évolué. L'image de l'haltérophile, des gros bras, ça a un peu disparu de la mentalité des gens.
Est-ce que ça s'est féminisé aussi en 50 ans?
Oui, ça s'est féminisé. Maintenant, au point de vue de la Suisse, on est pratiquement à 50% de femmes pour l'haltéro. À Moutier, on a un petit peu plus de peine. On n'a que 2 athlètes féminines, mais on espère quand même toujours. On est ouvert à accueillir des athlètes féminines. On y travaille.
Cyril Gostelli répondait à Jérémy Pignard.